Salut Émeric.
Salut Sylvain.
Alors, on s'est déjà dit salut avant parce qu'on a décidé comment on allait démarrer ce podcast. On n'a toujours pas une intro hyper bling bling, mais l'idée, c'est de sauter directement dans la thématique. La dernière fois et le premier épisode qu'on a fait, il partait dans beaucoup de directions différentes. Et c'est intéressant parce qu'on a eu des commentaires de personnes qui nous ont écoutés, avec aussi des envies qui ont été partagées. Et on a repris une des envies, une demande, si on peut l'appeler comme ça, de développer la thématique suivante: expérience versus diplôme, ou alors connaissance versus compétence. Donc, ça va être le thème de notre échange aujourd'hui, et on va se concentrer uniquement là-dessus aujourd'hui. Moi, j'ai envie de. Je te raconte déjà juste une petite histoire là-dessus, parce que connaissance et compétence, il y a une tension entre les deux, et puis on va en discuter, mais ça me ramène directement à ce phénomène du syndrome de l'imposteur. Avec les deux termes, hein, au final. Est-ce que j'ai suffisamment de compétences? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances? Est-ce que je me sens légitime de réussir à parler de ce thème-là? Et ce qu'on avait dit durant notre premier podcast, on avait soulevé le fait qu'on a un parcours radicalement différent entre toi et moi. Toi, tu as évolué dans un milieu académique et puis tu es plutôt au top de ce qu'on pourrait atteindre dans ce milieu-là. Puis j'ai beaucoup de questions à te poser d'ailleurs sur ce milieu. Et moi, pas. J'ai pas fait d'études et je me suis formé sur le tas, ce qu'on appelle autodidacte. En l'occurrence, j'ai souffert longtemps du syndrome de l'imposteur parce que j'avais pas forcément de baromètre clair qui me stipulait est-ce que j'ai suffisamment de compétences ou de connaissances dans le milieu dans lequel j'évolue. Et j'ai même vécu des choses assez traumatisantes comme celle-ci. J'étais jeune adulte. Un jour, j'avais créé une affiche. Et la personne qui gérait le projet de cette affiche, c'était dans le milieu associatif, donc c'était pas en lien directement avec mon travail. La personne qui gérait le projet dit non, on peut pas utiliser cette affiche parce qu'il y a un problème de droit d'auteur dessus. Je contacte un ami qui est spécialisé dans les droits d'auteur, qui a un cabinet là-dedans, sur la protection intellectuelle. Il me dit non, il n'y a aucun problème là-dessus. Il explique pourquoi. Et puis là, le type qui gère cette association me convoque avec une autre personne qui gérait aussi ce projet, on faisait ça ensemble, pour discuter de cette situation. Au moment où j'arrive, cette personne regarde mon pote qui était avec moi et me dit, écoute, je vais m'adresser à toi parce que je préfère m'adresser à quelqu'un qui a fait l'université, comme ça elle comprendra un peu plus rapidement ce que j'ai envie de dire. Et ça, c'est des choses que j'ai eues tout le temps. C'est-à-dire que on m'a retranché sur le fait que j'avais pas fait l'université, que j'avais pas fait d'études, et que du coup, j'étais pas forcément en capacité de comprendre exactement les teneurs et aboutissants de ce qu'on était en train de discuter. Donc, ce thème-là, au moment où on a décidé de discuter de ça et puis d'aller un peu plus loin là-dedans, cette histoire-là est revenue tout de suite.
C'est
Et
marrant parce que j'ai l'exemple inverse, mais par excellence. Je le donnerai
vas-y.
tout à l'heure, mais
Non, mais
non, bah
vas-y,
alors c'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu sur cet exemple-là. J'ai vécu à peu près un truc similaire, mais celui d'un collègue, d'un proche collègue, est encore plus révélateur, je trouve. On était sur un oral avec des étudiants qui ont tous une spécialité sportive bien spécifique, et on s'arrangeait pour que l'oral soit systématiquement fait par deux enseignants de l'université, un qui était vraiment plutôt impliqué dans les champs disciplinaires, les approches théoriques, support scientifique de ce qui était étudié, et puis un autre qui était un petit peu plus proche du terrain, qui avait une activité d'entraîneur ou de préparateur physique ou mental en parallèle. Et je me souviens à un moment donné dans un échange que le discours, le contenu s'oriente sur des choses très, très terrain, très pratiques, vraiment liées à la disposition tactique, à l'enchaînement qui était travaillé par les joueurs. Et je me souviens de l'étudiant qui donne une précision technique et qui trouve intéressant de préciser. Mais ça, c'est une question pour monsieur Intel, hein, parce que en gros, enfin voilà, vous l'université, vous n'êtes pas apte à comprendre, ça vous concerne pas. Là, je parle de choses de terrain, de choses voilà que seul un entraîneur peut comprendre. Donc c'est exactement l'opposé de ce que tu as vécu, mais avec l'approche, une approche totalement similaire. Ce cloisonnement qui est génial et qui accentue vraiment la dichotomie entre les différents mondes.
Bah, c'est hyper intéressant. Ça va être sûrement notre premier angle d'attaque d'ailleurs. C'est cette idée que dès que tu es dans le milieu académique, tu es déconnecté de la réalité du terrain. Est-ce que toi qui as un pied dans le terrain, qui fait du coaching, qui fait de l'accompagnement de personnes, tu ressens cette tension-là ?
Il y a un petit peu de vrai là-dedans, en réalité, et il y a du faux également. C'est là que le paradoxe il est à la fois intéressant et perturbant, parce que bah, en fonction de comment tu te situes sur ce paradoxe-là, tu donnes plus ou moins de véracité à une affirmation telle que celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que factuellement, si on regarde de comment fonctionne aujourd'hui le monde du travail, la priorité est donnée, en tout cas dans certains pays, c'est une certitude, au titre et au diplôme. C'est-à-dire que c'est le titre qui donne de la valeur, qui permet de travailler contre rémunération, d'être considéré, reconnu, et donc il faut que tu aies le diplôme qui est censé valider des compétences. Ce diplôme-là, d'ailleurs, dans les formations universitaires, il y a ce qu'on appelle les fiches d'assistance au diplôme ou d'accompagnement au diplôme qui délivrent et déclinent toutes les compétences qui sont censées être acquises par les étudiantes et les étudiants au fur et à mesure de leur formation. Et ce qui amène en priorité ces titres et ces diplômes, ce sont des connaissances. C'est-à-dire qu'on a des savoirs théoriques, on a des supports scientifiques qui viennent nous permettre d'éclairer la pratique, de comprendre la pratique, de formater la pratique, quel que soit le domaine d'application d'ailleurs. Et donc du coup, ces connaissances ont pour vocation de donner un recul et une conceptualisation des choses et donc de permettre de développer des compétences. Le fait est que dans beaucoup de formations, la mise en pratique est quand même restreinte. L'opérationnalisation de ces savoirs et de ces connaissances, elle reste théorique finalement, elle n'est pas systématiquement mise en application. Et donc du coup, les compétences, elles arrivent plus tard. Elles sont déléguées à prendre le temps par la suite de pouvoir mettre les choses en place. Et à l'opposé, on a des gens qui sont sur la pratique de terrain. Et on a des gens qui sont vraiment des gens très percutants, très performants sur le terrain, un petit peu comme toi, qui ne se sont pas forcément formés initialement par des formations, des titres et des diplômes, et qui pourtant sont tout aussi compétents, voire parfois plus, sur le terrain. Donc du coup, on a des gens qui ont vraiment mis en place des compétences, qui ont construit des compétences par la mise en situation, par la confrontation à la tâche, mais sans avoir forcément les connaissances préalables. Et du coup, ça pose plein de questions, ça. Ça pose la question de la place respective de la connaissance et de la compétence pour pouvoir être performant. Ça pose la question de l'importance du diplôme. Est-ce que le diplôme prépare véritablement aux meilleures compétences et à l'opérationnalisation de ces compétences sur le terrain ? Est-ce que la connaissance est nécessaire en vue de la compétence ? Est-ce que c'est un élément, une composante de la compétence ? Est-ce que l'un fonctionne sans l'autre ? Enfin, voilà, ça pose plein de questions, plein d'éclairages qu'on pourrait balayer comme ça sous tous les angles. Mais en réalité, ça pose surtout la question de savoir finalement, c'est quoi l'idéal dans tout ça ? Comment est-ce qu'on se situe ? Alors c'est là où le paradoxe il se met en place et où c'est pas binaire, parce qu'en réalité, on est à deux extrêmes, on prend deux extrêmes là, pour les illustrer, hein. Vraiment la connaissance scientifique pure sans opérationnalisation, bah, ça reste de la connaissance, et puis la compétence propre acquise sur le terrain, mais sans le support scientifique de compréhension, d'analyse, de modélisation, bah, ça reste de la prestation de service et donc de la compétence, mais pas forcément ajustée au savoir théorique qui guide et qui sous-tendent ces compétences-là. Donc la réalité, c'est certainement un continuum entre les deux, et de savoir justement bah, comment est-ce qu'on peut mettre la connaissance au service de la compétence, faire en sorte que la connaissance devienne une compétence, et dans quelle mesure eh bien, les diplômes, les titres doivent être prévalents ou complémentaires de l'expérience de terrain. Et je pense que là, on pourrait débattre pendant un bon moment là-dessus, avec des angles, des éclairages qui sont opposés, des exemples même qui démontrent parfois qu'une entrée est meilleure qu'une autre. Ça reste des exemples vraiment spécifiques et dans un contexte donné. Je pense que la réalité, elle est surtout sur la complémentarité entre les deux. Alors cette complémentarité, pour moi j'adore par exemple expliquer aux étudiantes, aux étudiants que Une fois qu'on a des connaissances, il faut que ces connaissances deviennent des compétences. Donc si on ne se met pas en place sur le terrain, si on ne se confronte pas à la situation réelle, ça ne deviendra pas des compétences, ça restera à l'état de connaissance. Et là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc il faut qu'il y ait cette étape de mise en pratique. Et cette étape de mise en pratique, elle va être indispensable et elle va faire émerger des concepts hyper importants qui sont les concepts de liaison théorie-pratique et de décalage théorie-pratique. Et du coup, avec toute la formation universitaire que j'ai eue, où donc je suis rentré en priorité par les connaissances, j'ai toujours estimé qu'il était indispensable de garder un pied sur le terrain pour justement aiguiser et affiner ces liaisons et ces décalages théorie-pratique. Et j'ai plein d'exemples qui, au quotidien, sur le suivi, l'accompagnement de sportifs, sur la dimension physique, dimension mentale, même technique, où par exemple, on se rend compte que ce qu'on a mis en évidence sur des expériences de laboratoire qui sont par définition déconnectées de la pratique parce qu'il faut qu'on ait cette rigueur scientifique, c'est obligatoire. Mmh. Ces résultats qu'on observe, qui sont super intéressants et qui ont des perspectives hyper applicables sur le terrain, vont devoir nécessiter pratiquement tout le temps des ajustements par rapport à la réalité du terrain. Et c'est là que le monde entre la science et le terrain n'est pas toujours idéal. Parce que la liaison, l'osmose, elle ne se fait pas systématiquement, parce qu'il n'y a pas cette transition-là entre les deux. Et il est vraiment indispensable que ce qu'on a établi comme connaissance soit confronté à la réalité de la situation pour progressivement permettre de s'approprier les décalages théorie-pratique ou les liaisons théorie-pratique, on prend dans le sens qu'on veut, et du coup permettre de mettre en place de réelles compétences pour mettre la connaissance au service de la compétence.
Je reviens sur le milieu scientifique parce que j'aimerais bien que tu me décrives un peu plus ça aussi en me montrant les forces et les limites du monde scientifique. Parce que mes amis qui ont fait par exemple des études en psychologie, certains profs ont pu leur dire toutes les études qui ont été menées au-delà de 5 ans, prenez-les avec des pincettes ou alors elles sont potentiellement à mettre à la poubelle. Parce que les choses évoluent, les études scientifiques viennent contredire d'anciennes études scientifiques. Et je trouve cette phrase assez intéressante parce que dans le milieu du coaching, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou ce qu'on peut voir dans la manière dont des personnes qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études et qui se prétendent coach ou accompagnant de personnes, utilisent beaucoup des études scientifiques pour essayer de légitimer des démarches. Et en l'occurrence, c'est comme si ces études scientifiques devenaient la vérité sur laquelle on doit s'appuyer pour avoir de la légitimité. Et je voulais t'entendre sur, personnellement, toi, par rapport aux quel type d'études scientifiques t'as mené, quelles limites tu peux voir avec des études scientifiques que t'as menées il y a quelques années par rapport à celles que t'es en train de mener maintenant. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont plus d'actualité? Et comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer sur quelque chose d'un peu plus nuancé que la science, c'est la vérité? Parce que je pensais un peu limité de dire ça comme ça. Donc, je voulais t'entendre là-dessus.
Ouais, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui évoluent et parfois, on a des domaines où on a des grosses remises en question et où finalement, on aborde un éclairage totalement différent pour reconsidérer les choses. C'est vrai. C'est quand même pas tous les jours que ça se passe comme ça non plus. Et c'est un peu, voilà, encore une fois, ce côté
binaire. Et ça dépend des thèmes, hein. Je pense que ça, ouais, dépend des thèmes aussi. En psychologie, il y a beaucoup. Il y a plus. Dans les neurosciences, est-ce que c'est le cas aussi?
Oui, c'est le cas aussi. Il y a des choses aujourd'hui qui sont remises en question, des choses assez lourdes, hein, sur le fonctionnement du cerveau, sur des liens même entre le fonctionnement cérébral et puis l'éducation, l'apprentissage et la performance. Donc, il y a des choses qui sont parfois remises en question et qu'il faut apprécier justement sur l'ensemble de la trajectoire. Parce que si tu restes sur les considérations anciennes, tu vas trouver des références scientifiques qui viennent étayer ton propos. Sauf que ton propos, il n'est plus vraiment d'actualité parce qu'il n'est pas ajusté, il n'est pas, au regard des nouvelles connaissances complémentaires qui ont enrichi les savoirs et les concepts qui tournent autour de ces thèmes-là. Et à l'inverse, si tu prends que les récents, tu as toute l'histoire de la trajectoire qui disparaît. Et malgré tout, cette histoire de la trajectoire, elle est intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre finalement pourquoi on en est là aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que dans les études scientifiques, une des notions qui est essentielle, c'est la reproductibilité, la fiabilité et la reproductibilité des données. Parce qu'on trouvera dans tous les champs scientifiques et dans tous les thèmes qui nous intéressent, on trouvera toujours des études qui viennent étayer nos propos ou nos croyances. Maintenant, quand dans la balance, tu as une ou deux études qui viennent étayer une vérité et que tu en as une écrasante majorité qui vient en étayer une autre, bah, il faut aussi être capable de déceler qu'est-ce qui n'allait pas dans les études qui étayaient la première réalité et qui aujourd'hui n'est plus la bonne. Parce qu'il peut y avoir des biais expérimentaux, il peut y avoir des biais de rigueur, il peut y avoir des biais méthodologiques qui justifient qu'on ne réussit pas à montrer ce qu'on voudrait ou qu'on montre l'inverse ou qu'on observe l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Donc, c'est aussi ça la science, c'est une réalité. D'ailleurs, ça pose d'autres problèmes. Hein. Je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui ou pas, mais le fait de publier l'absence de résultats, c'est très compliqué d'un point de vue scientifique. Donc, on n'a pas une vision réelle de ce qui se passe parce qu'il y a une course à la publication et à la valorisation scientifique et les éditeurs vont publier en priorité les études où il y a des résultats. Sauf que pas de résultat, c'est un résultat. Et du coup, tu fais beaucoup moins bien la part des choses entre les fois où ça fonctionne, où c'est valorisé dans la littérature scientifique, et puis le nombre, parfois incalculable, de fois où ça ne fonctionne pas, mais dont tu n'as pas connaissance. Donc dans la balance, ça pèse quand même, ça crée un vrai biais de publication pour moi. Et du coup, tu trouveras toujours, pour revenir au propos initial, des arguments scientifiques qui viennent étayer des considérations contraires, ou des points de vue, ou des concepts opposés. Et c'est vraiment indispensable aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire nous dans les formations universitaires, mais même si tu le fais de manière autodidacte, de construire une capacité de critique constructive. Critique au sens appréciation, pas critique au sens avec la connotation négative. Il faut être capable de déceler à chaque fois qu'on lit une étude, à chaque fois qu'on observe quelque chose sur le terrain, à chaque fois qu'on nous rapporte une expérience vécue, à chaque fois qu'on lit un ouvrage de vulgarisation scientifique, il faut qu'on soit capable de se faire à sa propre appréciation avec les forces et les limites. Quelles sont les forces de l'étude? Quelles sont les limites de l'étude? Parce qu'il y en a tout le temps. Et la décontextualisation dont tu parlais tout à l'heure en est une majeure, hein, le fait d'être déconnecté du terrain, forcément. Mais voilà, il y a toujours des forces et des limites. Il faut être capable de déceler à qui ça s'adresse, pourquoi, quelle est la portée des résultats, des interprétations, comment est-ce qu'on peut justement apprécier la généralisation ou pas des résultats qu'on observe, la transposition à la situation de terrain. Et ça s'aiguise, ça s'affûte au fur et à mesure. Et on a besoin pour ça de beaucoup d'études scientifiques dans un même thème donné. Parce qu'il faut qu'on ait ce regard et cet éclairage hyper complémentaire. Et normalement, il faut aussi que dans les études scientifiques, il y ait toutes les informations qui nous permettent d'accéder à cela. Ce qui est loin d'être le cas. Hein, parce que quand tu lis une étude, en théorie, tu es censé avoir toute la description du protocole de manière à pouvoir le refaire exactement à l'identique. Et malheureusement, c'est loin d'être le cas. Donc, c'est pas forcément évident. Et l'exemple que tu donnais des influenceurs ou des gens qui cherchent à valoriser le support scientifique à une considération de terrain qui veulent appuyer, dans l'esprit, c'est intéressant. Je préfère voir quelqu'un qui se pose cette question-là et qui essaye déjà de faire les liens avec les études scientifiques. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un artifice ou une façade en voulant donner du crédit, mais en ne sachant pas de quoi on parle et en n'ayant pas un recul nécessaire, en prenant juste une étude qui nous intéresse, mais qui, au regard des autres, en fait, est complètement noyée et peu crédible. Ben voilà, il faut être capable d'avoir tout ce travail d'appréciation. Ce que malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire ou n'ont pas forcément je ne vais pas parler de compétences, mais la démarche de faire parce que bah, c'est quelque chose qui s'éduque, hein, qui s'apprend comme tout le reste. Et donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment un élément essentiel, ça, pour moi. Je trouve bien de faire le lien entre la science et le terrain. Par contre, c'est hyper important de garder à l'esprit que la science vient éclairer le terrain. Parfois même, on s'aperçoit qu'elle vient l'éclairer avec beaucoup de retard, parce que ça se fait déjà sur le terrain depuis bien longtemps. Et donc, elle vient en fait permettre d'expliquer pourquoi ça fonctionne ou de donner des explications un petit peu plus rationnelles, un petit peu plus rigoureuses. Mais le terrain éclaire tout aussi la science et pose des véritables questions. Et on en revient à cette notion, cette logique vraiment, moi, que je trouve centrale de liaison et de décalage entre la théorie et la pratique. Et donc ça, c'est vraiment important que la science se mette au service de ces perspectives d'application. Et derrière, on l'abordera certainement un peu plus tard, mais ça pose la question de la formation derrière. Et dans la formation qui nous amène au titre et au diplôme dont on parlait tout à l'heure, est-ce que cette démarche-là, elle est intégrée et qu'elle nous permet justement de faire ce mariage entre la pratique de terrain et l'approche scientifique?
Quand tu rencontres des nouvelles personnes, Aymeric, et puis que tu dis que tu es docteur en neurosciences et professeur des universités, forcément, on va te donner une autorité sur cette thématique-là. Est-ce que toi, personnellement, au moment où on t'attribue cette autorité, tu te sens légitime de celle-ci?
Ah, c'est une super bonne question, ça. Alors, déjà, pour resituer, on va me donner de l'autorité et parfois, on va absolument pas m'en donner, justement. Mais ça reprend un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu es face à des gens qui ne laissent pas beaucoup de place à l'approche scientifique, qui considèrent que c'est trop déconnecté du terrain, et bah, finalement, pour eux, tu es un sachant. Tu es un sachant, mais tu n'es pas un faisant. Et donc, du coup, toi, tu es dans la connaissance, mais tu manipules des variables comme tu manipules des éprouvettes scientifiques. Et finalement, tu ne connais rien au terrain. Donc tu restes dans ton laboratoire et tu ne viens pas sur le terrain. Souvent, hein, je suis confronté à ça, que ce soit dans le milieu médical, comme dans le milieu de la préparation physique ou de l'accompagnement des athlètes dans le domaine de l'entraînement, on va dire. Et donc, ça c'est une réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas systématiquement cette autorité qui m'est accordée parce que je viens avec un terrain de connaissances supposées établies de par la formation. Après, quand on me donne cette autorité-là, déjà, ce qui est important, et on ne va pas tous réagir de la même manière, c'est que ce sont les personnes qui te mettent en position haute. Moi, je ne me considère pas en position haute par rapport à ces personnes-là, parce qu'elles ont tout autant de choses à m'apprendre que moi, j'ai à leur proposer. Donc finalement, je vais me sentir peut-être légitime, mais au sens serein de pouvoir intervenir, parce que l'état de mes connaissances me permet de facilement faire le lien avec la pratique, aussi parce que j'ai un pied sur le terrain. Je pense que tout le monde n'est pas systématiquement dans cette situation-là. Mais le fait d'avoir un pied sur le terrain, donc d'avoir été confronté à la réalité du terrain, fait que je sais comment les connaissances vont s'articuler avec la réalité du terrain. Et puis parfois, je me sens beaucoup moins légitime que ce qu'on m'accorde, parce que je vais vivre, tout comme toi, le syndrome de l'imposteur, la sensation d'être un petit peu en façade ou de rester finalement assez théorique dans des approches conceptuel, mais sans faire le lien direct avec la pratique de terrain. Et ça me dérange. Ça me met dans une position qui est vraiment très inconfortable, parce que c'est l'incarnation d'une imposture. C'est-à-dire que j'ai l'impression, finalement, de dire des choses qui ne sont pas ajustées, qui ne sont pas réalistes par rapport à la situation réelle.
T'as un exemple concret par rapport à ça ? T'as un exemple concret ?
J'ai pas d'exemple récent, concret, qui me vienne à l'esprit comme ça, mais en fait, à chaque fois que je vais... il y a des choses... Quand je suis amené à intervenir, par exemple, donc moi, je travaille dans la dimension mentale sur l'imagerie. Hein, et finalement, j'ai très, très souvent des demandes pour intervenir auprès de sportifs dans des disciplines que parfois, je connais très, très peu. Mmh. Alors, il y a des choses qui sont très transversales. Mais en réalité, tout de suite, il y a un inconfort qui fait que lorsque tu vas t'adresser à des sportifs qui, eux, sont au quotidien à 100% dans les considérations de terrain, si tu arrives en tant que non spécialiste de la discipline, et que tu n'as pas fait ce travail de liaison d'articulation pour comprendre ce qu'ils vivent, analyser, modéliser ce qu'ils vivent, la manière de le mettre en place, etc., tu es à côté de la plaque. Et quand tu es à côté de la plaque, tu le sens tout de suite. C'est-à-dire que dans ton discours, dans les termes, dans la manière de faire, tu vois que tu tapes à côté. Et que, en gros, tu parles pas le même discours. Et tout ce que tu veux véhiculer, c'est pas compris par les athlètes. Alors, j'ai pas d'exemple, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une situation aussi marquée. Où t'arrives et t'es complètement à côté de la plaque. Par contre, sur certaines situations, en tout cas, ça fait écho à des inconforts que j'ai pu ressentir en me disant « Ouais, mais là, je suis sur une pente fragile. » C'est-à-dire que là, je ne maîtrise pas suffisamment bien les questionnements de terrain et la réalité de ce que vivent les personnes pour affirmer que ce que je vais proposer, c'est la bonne direction de travail à avoir. Et là, immédiatement, généralement, je m'ouvre à comprendre un peu mieux ce que fait la personne, ce qu'elle vit, comment elle le vit, avoir vraiment ses retours, tester les choses également pour pouvoir m'assurer que la liaison que je vais proposer, c'est pas une liaison artificielle. Donc c'est des petits inconforts comme ça que je peux percevoir et qui m'incitent encore plus finalement à jongler sur ces liaisons théorie-pratique.
Ouais, c'est intéressant. T'as le sentiment que tu t'es référé des fois à des études scientifiques? Et après coup, tu t'es aperçu qu'il y avait des limites sur ces références-là.
Ouais, carrément.
Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. Hein.
Non, carrément.
C'est-à-dire tout d'un coup, mais il y a ces biais, hein. Il y a ces biais de perception aussi, ou ces biais de confirmation que tu vas avoir sur.
Mais oui.
Sur le fait que tout d'un coup, tu lis quelque chose qui t'arrange bien.
C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Ouais.
Tu vas l'utiliser pour étayer ton propos et puis.
Mais d'ailleurs, on cherche le plus possible à faire la chose en aveugle, hein, des protocoles en aveugle, en double aveugle, sans savoir véritablement de quel groupe sont les sportifs qu'on analyse, parce qu'on veut pas se laisser influencer par les hypothèses préalables du travail. Mais oui, j'ai bien des des situations qui me reviennent. Alors, c'est pas hyper précis, mais de... t'as une idée en tête, t'as l'impression d'avoir sorti une idée assez intéressante, pas, je vais pas dire novatrice, mais intéressante pour vraiment amener quelque chose de plus chez les sportifs dans la préparation mentale. Et tu te dis, mais là, cette forme de travail-là, là, elle est vraiment intéressante. Et donc là, tu commences à rechercher et tu vas tomber sur un ou deux articles qui, globalement, viennent valider ton hypothèse. Et là, c'est le jackpot, t'es heureux, c'est génial. Et l'erreur, c'est de s'arrêter là. Mais en réalité, il faut resituer ça. Et au début, quand tu trouves ça en priorité, parce que tes recherches avec tes mots-clés, elles sont quand même très orientées au départ, tu trouves deux, trois études, puis après, t'élargis. Et en fait, tu te rends compte qu'au début, tu trouves le truc qui vient valider ton hypothèse, et là, t'es super contente, tu dis « Non, mais c'est génial, je le savais, je m'en doutais. » Et puis là, tu commences à lire, à lire, à lire, puis tu te rends compte qu'en fait, à part les deux études que tu as trouvées, toutes les autres, elles montrent que ça ne fonctionne pas, ou que ce n'est pas marquant, ou qu'il y a peut-être d'autres manières de faire encore plus intéressantes qui vont à l'opposé de tes conceptions. Et là, c'est dur, hein. Là, il faut accepter de reposer ton hypothèse de départ et de la remettre finalement au regard de ce que te disent l'ensemble des études et non pas juste une ou deux études. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ça, hein. C'est-à-dire que... Et pour les personnes qui vont nous écouter, c'est hyper important. Quand on entend quelqu'un se référer à une étude scientifique, déjà, il faut être capable d'apprécier la lecture qu'il en a faite, avec les avantages, les limites, la portée, etc. Et ensuite, bah, comment il la situe au regard du champ disciplinaire dans lequel il y a certainement beaucoup plus d'études que ça. Parce qu'une étude qui montre quelque chose, déjà, il faut citer la source et pouvoir la retrouver, pouvoir la consulter. Parce que des études qui n'existent pas ou des études voilà, qui sont faites mais non validées scientifiquement, il y en a plein. Et il faut être capable de déceler ça. Mais ouais, ça me parle. Et j'ai même un autre exemple. Alors, c'est un peu plus conceptuel, mais où finalement, tu t'intéresses à un sujet. Par exemple, moi, je m'étais intéressé, et je m'y intéresse encore, à l'inhibition de la commande motrice. Lorsqu'on imagine un mouvement, on sait que ça ne débouche pas sur l'exécution du comportement. Et donc, il y a une forme d'inhibition de la commande motrice. Parce qu'on sait aussi qu'il y a un petit résidu de la commande motrice qu'on enregistre. Donc finalement, tu poses assez vite l'hypothèse que, OK, bah, quand j'imagine le mouvement, je vais construire la commande du mouvement comme si j'allais le faire. Et puis, à un moment donné, il va y avoir probablement plusieurs sites d'inhibition qui vont faire que la commande n'arrive pas en direction des muscles concernés. Il y a juste un tout petit résidu d'activité musculaire qui arrive, mais suffisant pour refléter la nature de la commande motrice. Donc tu te dis, OK, elle a été construite, mais elle a été inhibée. Et tu as même le modèle de la pathologie qui vient de confirmer ça, qui montre que dans certaines pathologies, notamment les personnes qui n'ont pas de retour sensoriel, ben en fait, quand on leur demande d'imaginer le mouvement, ils le font, mais sans en avoir conscience. Donc ça vient de valider ton hypothèse que, OK, donc en fait, chez eux, il y a un déficit de l'inhibition, une inhibition de l'inhibition. Et donc tu te dis, OK, bah donc en fait, quand j'imagine le mouvement, c'est vraiment comme si j'allais le faire parce que je construis la commande du mouvement, puis ensuite, ça ne débouche pas sur l'exécution.
Et ça, Émeric, ouais. Essaye de donner des images quand t'expliques ce genre de truc parce que j'ai l'impression que ça va aller un peu vite pour les personnes qui nous entendent.
En fait, c'est l'idée de... Tu t'imagines, par exemple, un geste de saisie. Et en fait, quand tu t'imagines le geste de saisie, tu sais très bien que tu ne vas pas le faire, ce geste-là. Donc, ta commande motrice qui te permet d'envoyer le bras, la main, saisir l'objet, elle n'est pas envoyée, en tout cas pas dans son intégralité. Et ça, du coup, tu n'engages pas d'action musculaire pour aller saisir l'objet. Et l'exemple des patients que je prenais, c'est que quand eux, tu leur demandais d'imaginer le mouvement, donc ils fermaient les yeux, et là, ils se mettaient à bouger dans tous les sens et à faire le mouvement, réellement. Et donc, je me souviens, parce qu'on avait une patiente assez célèbre avec qui on avait pu travailler là-dessus. Elle était canadienne et elle faisait le tour du monde pour justement les expériences scientifiques parce qu'elle avait un truc vraiment rare. Et en fait, on l'arrête, on dit « Non, mais attends, je ne veux pas que tu imagines le mouvement. Je veux pas que tu fasses le mouvement, je veux que tu l'imagines. » Et là, elle ne regarde, elle fait « Mais j'ai pas bougé. » Alors qu'elle s'agitait dans tous les sens. Voilà. Donc, elle n'avait plus conscience de son mouvement. Et donc, chez elle, il y a vraiment un déficit de cette inhibition motrice qui, normalement, bah, nous préserve de faire le mouvement quand on l'imagine. Et donc là, on part sur toute une hypothèse scientifique. On commence à étudier, et je suis loin d'être le seul, il y a plein de groupes comme ça qui ont commencé à étudier quelles sont les régions du cerveau qui vont être impliquées, pourquoi ça se passe comme ça, à quel endroit on envoie une commande suppressive ou une commande d'inhibition qui fait que, du coup, le mouvement ne se fait pas. Et puis, au fur et à mesure, on trouve des choses hyper intéressantes, on en trouve. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être pas une inhibition. C'est peut-être en fait une facilitation incomplète. C'est-à-dire que tu construis la commande, mais pas dans son intégralité. Et c'est vrai que le cerveau fonctionne souvent à l'économie, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'il construirait l'intégralité d'une commande pour ensuite l'inhiber? C'est un peu contre-intuitif, même si de temps en temps, il fait des choses de ce type-là. Mais là, finalement, est-ce que ce ne serait pas plutôt, et c'est les réflexions qu'on a actuelles, est-ce qu'il n'y aurait pas une construction, mais d'entrée de jeu, qui est incomplète? Ce qui fait que du coup, on construit juste une partie, toute petite partie de la commande motrice, dont on va enregistrer un petit résidu d'ailleurs, mais on ne va pas se fatiguer à construire l'intégralité de la commande motrice. Et ça, d'un coup, c'est un éclairage qui vient re-questionner complètement le sujet en disant, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas autre chose qu'une inhibition ? Et là, tu as une centaine d'études qui sont remises en question, qui sont à reconsidérer un petit peu différemment. Et ça rejoint un peu ce que tu disais au début, c'est OK, ça évolue. Et finalement, on se dit OK, mais peut-être qu'il y a un autre angle d'attaque et que ça mérite d'aller aborder cet angle d'attaque-là pour le confronter.
Et j'ai le sentiment d'ailleurs qu'il y a toujours d'autres angles d'attaque. Et si tu ne prends pas en considération le fait qu'il y a d'autres angles d'attaque, beaucoup plus complexe. Que ce qui est proposé dans une étude qui a été validée scientifiquement, t'es à côté de la plaque.
Et en neurosciences, j'en vois d'ailleurs, il y en a plein des trucs comme ça tout le temps.
Ah oui. Et il y a un phénomène de mode en ce moment sur les biais cognitifs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'importance des biais cognitifs. Mais si tu te focalises que sur les biais cognitifs, t'es de base à côté de la plaque.
Bah t'es en train d'introduire un nouveau biais complètement.
Ouais, c'est ça. Ouais, exactement.
Mais c'est vrai que les neurosciences sont vraiment le carrefour de ces éclairages très complémentaires. Là, récemment, je discutais avec un proche collègue des modèles théoriques de l'apprentissage moteur et qui sont complètement opposés parfois. Le point de vue entretient, je réfléchis en situation réelle sur la meilleure manière d'agir, sur la meilleure décision à prendre, sur est-ce que je vais faire cette passe en profondeur pour contourner la défense et permettre à mon attaquant de... Ok, ça c'est une première approche très cognitive, et puis il y en a une autre qui va dire mais non, c'est pas du tout ça, là c'est une affordance en fait, donc c'est directement une liaison stimulus-réponse pratiquement qui fait que l'espace vide devient pertinent, et en fait t'as pas tout le calcul et toute la réflexion à faire. L'affordance, c'est vraiment l'appel de l'action. Hein. Donc, tu vois l'espace et ça t'incite à faire la passe parce que ça devient une possibilité d'action. Et donc, en fait, rien que là, tu as deux éclairages qui sont conceptuellement complètement opposés, mais les deux peuvent très bien se justifier en fonction de comment on aborde le questionnement et comment on étaye cette réflexion-là. Donc, ouais, les neurosciences, pour ça, c'est vraiment le carrefour de ces approches croisées.
En termes d'approches croisées ou bien de liens que j'ai envie de faire quand on parlait de connaissances versus compétences. Pour moi, il y a un ouvrage qui m'a éclairé là-dessus aussi, parce que comme je n'avais pas fait d'études, je me suis dit, il faut que je me base à fond sur mon intuition. Et il faut que je fasse confiance en mon intuition. Et puis comme je réussissais des choses, je me disais, c'est mon intuition qui m'a aidé là-dedans, vu que je n'ai pas forcément... toutes les connaissances requises. En tout cas, je n'avais pas le sentiment de les avoir. Bon, et puis après, je pense que avoir des connaissances sur quelque chose, c'est sans fin au final. Daniel Kahneman, qui est décédé récemment, il y a peut-être 2 semaines, qui a écrit l'ouvrage « Système 1, système 2 » sur les pensées intuitives et les pensées rationnelles. Et puis cette tension entre ces vitesses de pensée avec ce principe que la pensée intuitive vient toujours en premier lieu parce qu'elle est automatisée, elle demande moins d'efforts. Et puis le deuxième type de pensée, qui est la rationnelle, qui demande de l'effort, vient toujours en second plan. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant dans les connaissances et les compétences ici aussi. Parce que plus tu vas réussir à obtenir des compétences sur le terrain, plus ça veut dire que tu t'es exposé à ce terrain et que tu as de l'expérience. Et plus tu as de l'expérience, plus tu vas créer des automatismes et des pensées intuitives par rapport à ce qui est en train de se passer, avec des fois des propositions de solutions que tu n'arrives, ou bien des analyses de situations que tu n'arrives pas nécessairement à expliquer tout de suite, parce que il y a ces automatismes qui se sont créés. Et ça, je l'ai vu avec mes premières expositions au terrain, où tout d'un coup, j'avais emmagasiné de la connaissance, parce que j'avais besoin de me sentir aussi légitime par rapport à ce que j'allais faire. Donc, tu prends de la connaissance, tu t'exposes à un terrain, et là, au moment où, par exemple, une formation de prise de parole en public, la première fois que j'ai donné une formation de prise de parole en public, je suis arrivé, je me suis calqué, j'ai été beaucoup trop carré. J'étais rigoureux, carré, rigide dans le programme, dans la manière d'appliquer des techniques. Et puis, dès que quelqu'un n'appliquait pas ses techniques, j'essayais de le recadrer là-dedans de manière un petit peu technique ou un peu, par moment, déconnecté aux sensations ou aux émotions que cette personne ou moi-même pouvait vivre à ce moment-là. C'est vrai que c'est que en m'exposant plusieurs fois sur et puis en répétant plusieurs fois des formations de prise de parole en public que j'ai commencé à me détacher du cadre pour beaucoup plus vivre le moment présent et puis ce qui était en train de se passer et puis amener ces dimensions de complexité face aux techniques que j'aborde parce que ces techniques-là elles vont pas tout faire et puis il faut faire des ponts avec des choses potentiellement des fois que tu maîtrises moins ou alors potentiellement avec des thèmes que tu devras toucher sans forcément aller en profondeur dans ces thèmes, comme l'estime de soi, on en avait parlé la dernière fois. Tu te rappelles la première fois que tu t'es exposé à un accompagnement de personnes ou que tu es allé sur le terrain en ayant ces connaissances-là, comme je viens de le dire, et en te sentant, mais vraiment, comment dire, presque dans une relation protocolaire.
Oui, complètement. Et je la prends pas comme exemple, mais je prends cette situation-là comme un support pour les étudiants en leur disant voilà ce que vous risquez de vivre. Et effectivement, moi, comme je travaille sur la dimension mentale, tous les athlètes sont pas forcément ouverts de plus en plus, mais à la dimension mentale, connaissent pas nécessairement. Et on passe souvent par une logique d'explication. En tout cas, moi, je considère que c'est important d'expliquer ce que c'est, ce que ça va leur amener, comment on va la travailler, pour qu'on ne soit pas dans une approche purement descendante, mais qui s'approprie vraiment la chose. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, bah, on apprend des définitions, on comprend les concepts, les domaines d'application, on estime, on prélève tout ce qui est important, et donc là, tu te prépares à mort, tu sais exactement ce que tu vas dire, tu sais que cette notion-là, elle est clé, tu veux leur amener ça, tu as une logique, tu as structuré tout, tu arrives, et là, tu fais de la merde. C'est-à-dire que tu commences à t'expliquer, ils réagissent pas comme tu l'avais anticipé, donc l'enchaînement des idées, il est plus du tout le même. Tu vois qu'ils panne rien à ce que tu es en train de raconter. Et là, tu rentres dans une sorte de spirale avec l'anxiété qui arrive et tu passes complètement à côté du truc. Et donc, du coup, là, c'est l'exemple parfait pour moi, dans mon domaine, de j'ai l'approche protocolarisée qui est parfaite, qui est très claire, je sais exactement ce que je dois dire. Puis quand je me retrouve en situation, bah, en fait, il faut que je fasse tout autrement. Le même message va passer, mais complètement autrement. Et je trouve que tout ce que tu dis et ce type d'exemple-là, il pose une autre question complémentaire qu'on n'a pas forcément à l'esprit quand on pose la question connaissance versus compétence, c'est l'articulation temporelle entre les deux. Et finalement, il faut pas voir les choses comme étant tout le temps, toutes au même moment. Et il y a un timing dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a la construction de l'expérience et il y a, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, le fait que bah, quand tu te retrouves en situation, généralement, ce qui fonctionne, ce sont les automatismes. C'est ce que tu as automatisé, ce qui sort de manière du coup un peu plus intuitive. C'est aussi la faculté d'adaptation et d'ajustement à une situation bah, qui n'est pas exactement celle que tu as anticipée. Et ça, c'est hyper important parce que ça, c'est le reflet d'une véritable compétence sur le terrain qui nécessite la confrontation au terrain. Et si tu restes à l'état de connaissance, tu n'as pas cet ajustement-là. Et donc, tu passes à côté, un peu comme dans l'exemple de ce protocole bah, qui est finalement mal ajusté, mal adapté à la situation que tu vas vivre. Donc, il y a certainement un questionnement sur le timing et comment la connaissance formate, module la compétence que tu vas utiliser et comment, à un moment donné, elle doit aussi s'effacer pour laisser place à la réalité du terrain et à la compétence de se forger sur le terrain. Et ça, ce ne sont pas forcément des choses qu'on enseigne, ce sont des choses qu'on vit. Il faut passer par le vécu, par l'expérience, par la sensation et faire cet ajustement aussi soi-même. Et ça, ça passe par cette mise en pratique.
Les limites aussi de l'intuition, et puis ce qu'il y a de compliqué avec l'intuition, c'est que là, on a parlé que des compétences et des connaissances, puis que ça peut devenir des automatismes intéressants. Après, il y a tous les automatismes comportementaux en lien avec les émotions que tu vas vivre quand tu accompagnes un groupe de personnes ou une personne. En l'occurrence, dès que tu vas, par exemple, être mis en question, attaquer sur ta démarche, challenger devant peut-être plusieurs personnes d'ailleurs, tu vas avoir aussi des automatismes de réaction qui vont être des automatismes de défense qui vont pas forcément t'aider à aller chercher le meilleur de toi-même en termes de connaissances à ce moment-là, qui peut t'amener à être à côté de la plaque.
Ouais, complètement. Et là, il y a l'ego, il y a la réactivité émotionnelle, il y a l'anxiété, il y a plein de facteurs qui vont venir être des parasites à ce moment-là. Et puis même au-delà de ça, parce que finalement, comme tu dis, on a beaucoup parlé de la connaissance au service de la compétence, mais il ne faut pas oublier la réciprocité ou la réciproque. C'est-à-dire que la compétence, elle nécessite des connaissances préalables ou acquise a posteriori, mais elle va nécessiter ces connaissances-là pour justement prendre un peu plus d'ampleur, un peu plus de profondeur et pas simplement être dans « je reproduis quelque chose que j'ai vécu, je reproduis quelque chose que j'ai vu, je reproduis finalement ce que je pense être la meilleure situation ». Non, les connaissances vont venir permettre d'étayer, de confirmer, d'infirmer, de questionner. Et donc, du coup, la compétence, même si elle est développée ou opérationnalisée parce que tu as eu une approche de terrain, elle nécessite toujours des connaissances qui, normalement, sont en amont, hein, puisqu'elles elles amènent progressivement à la compétence, mais qui peuvent tout aussi bien arriver comme une boucle de rétroaction après pour venir moduler ou renforcer finalement ce degré de compétence. Donc je pense vraiment qu'on est sur un mariage ou une osmose entre ces deux notions-là. D'ailleurs, qu'il faut qu'on, et nous-mêmes on l'a fait hein, dans l'introduction du podcast, il faut arrêter de les opposer déjà. C'est pas l'une versus l'autre et l'une contre l'autre. Elles sont totalement complémentaires et elles se nourrissent mutuellement.
Quand, sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec tout ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'amener sur un thème parce que je vois deux équipes un peu sur les réseaux sociaux et il y a une équipe qui me stimule intellectuellement mais qui me met mal à l'aise et puis il y en a une autre équipe qui me met complètement mal à l'aise. L'équipe, il y a beaucoup de coachs. Tu vois beaucoup d'offres en coaching sur les réseaux sociaux qui partent dans toutes les directions et qui partent dans des directions qui sont appuyées sur des études scientifiques qui ont été validées comme des choses qui sortent vraiment de nulle part.
Et le pire, c'est quand c'est dit ça a été prouvé scientifiquement, puis qu'ils t'en disent pas plus.
Oui,
voilà,
oui,
c'est éprouvé scientifiquement.
C'est okay, le label, éprouvé scientifiquement.
C'est pas bon signe quand on se contente de dire ça.
Non, c'est pas bon signe, je suis d'accord. Et c'est souvent des gens qui sont très vendeurs dans l'approche avec des méthodes miracles. Tout ça, tu le vois partout. Tu t'aperçois à quel point aussi, dans le milieu de l'entreprise, et puis je fais partie de ce milieu, hein, d'accompagner des personnes en entreprise, dans la communication, y a vraiment de tout et de rien. Et puis de l'autre côté, il y a des opposants à ça qui expliquent qu'il faut pas s'adresser à des coachs. Que par exemple une Julia de Funès, qui a écrit un livre très intéressant hein, sur qu'elle a nommé le développement impersonnel, qui explique qu'il n'y a pas de méthode, que la plupart des gens qui sont coachs, c'est des gens qui sont très peu formés, donc potentiellement des imposteurs ou des personnes qui n'ont pas forcément suffisamment de connaissances. D'ailleurs, elle dit, mais elle utilise cet exemple, vous n'allez pas vous faire opérer par un garagiste ou une personne qui s'improvise ou qui a fait de petites études en chirurgie vite fait. Vous allez vers des gens qui ont fait médecine et qui ont une expérience et surtout des connaissances en chirurgie. Pourquoi est-ce que, pour le cerveau, vous n'irez pas plutôt vers des psychiatres ou des psychologues qui ont justement étudié ces mécanismes-là ? Parce que les coachs, ça serait les garagistes de la chirurgie, grosso modo. Et je comprends tout ça par rapport à la déviance et puis aussi à toutes les dimensions qui alimentent le libéralisme et l'argent qui est drainé par le milieu du coaching. Par contre, je trouve quand même ces pensées extrêmement limitantes dans le sens où, vu que j'essaye de toujours être en connexion avec des gens qui sont en lien avec le milieu académique ou bien qui soit continue à faire de la recherche, soit on fait des pratiques différentes comme des psychiatres et des psychologues, je peux m'apercevoir qu'il y a des psychiatres qui sont très mauvais et voire même très dangereux au même titre que des psychologues. Ou alors je peux voir des psychologues ou des psychiatres qui deviennent dogmatiques avec leur approche ou bien leur spécialité. Et c'est compliqué d'essayer de faire comprendre à des personnes comme une Julia de Funès, qui a des coachs qui sont meilleurs, je pense, que certains psychiatres ou psychologues. Comment tu réagis à ça, toi ?
Bah, je suis assez d'accord avec le propos dans sa globalité. Et je pense que si le message est véhiculé, en tout cas a pour vocation de souligner les dérives, les manquements et aussi le manque de législation par rapport à tout ce qui est disponible sur le marché des coachs et des accompagnateurs, le message est intéressant, important, et je le comprends complètement et j'y souscris. En revanche, en prenant cette position-là, ça devient une position extrême, et aussi extrême finalement que l'autre que tu décrivais. Et elle se retrouve à dire aux gens ce qu'ils doivent faire en leur disant de ne pas faire ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire qu'elle dit n'écoutez pas, n'allez pas suivre ces coachs-là qui finalement n'ont pas fait les études, n'ont pas les connaissances. Je trouve que la métaphore que tu prenais tout à l'heure avec les garagistes était super intéressante. Mais en même temps, elle nous dit quoi faire. Puisqu'elle nous dit « allez voir ces personnes-là ». Et donc, du coup, ça devient une figure d'autorité par rapport à ça. Et ça me dérange un petit peu plus. Donc, si le message, c'est vraiment de souscrire les manquements qui existent, malheureusement, c'est vrai, complètement d'accord, à 100% d'accord. Maintenant, tout n'est pas binaire, encore une fois. Donc, tout le monde n'est pas dans ces dérives-là. Et il y a des gens extrêmement compétents qui, effectivement, n'ont pas ou peu de diplômes, qui ont une expérience de terrain immense, une pratique intuitive et opérationnalisée immense, et qui sont hyper efficaces. Et c'est vrai que les classer d'office dans le registre des personnes qui ne seront pas compétentes parce qu'elles n'ont pas les titres ou les diplômes, ça me dérange quelque part. Je trouve pas ça correct, encore une fois, parce que j'estime qu'on est sur un continuum et pas sur et on ne doit pas raisonner sur les extrêmes qui constituent ce continuum là. Et quelque part, elle se positionne sur cet extrême-là en ayant un message fort, qui est plus un message d'alerte ou un message de prudence par rapport à tout ce qui se vend effectivement sur Internet, sur les réseaux et même dans l'accompagnement du quotidien. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas des personnes extrêmement compétentes sur lesquelles s'appuyer, avec lesquelles travailler et qui ont toute la légitimité pour pouvoir accompagner les personnes dans les différents domaines qu'elles veulent embrasser. Donc voilà, j'ai un problème de toute façon avec les positionnements unitaires, extrêmes ou qui assez binaires finalement. Et d'une certaine manière, ce positionnement-là, il est trop binaire pour moi.
Ce qui aurait d'intéressant par rapport à ces positionnements-là, parce que je suis vraiment plus qu'ouvert au fait de critiquer le milieu du coaching, parce que je pense qu'il y a des sacrées déviances, effectivement, c'est d'expliquer aussi comment est-ce qu'on peut choisir un bon psychiatre et un bon psychologue, ou une psychiatre ou une psychologue. Et honnêtement, c'est pas facile, et il y a peu de personnes qui accompagnent là-dedans. Je n'ai pas souvenir qu'elle, si je reprends référence à Julia de Funès, qu'elle nous guide là-dedans. C'est intéressant, hein, parce qu'en termes de communication, je fais juste une digression ici, en termes de communication, c'est hyper fort d'utiliser un ennemi. Tu vois, quand t'as déterminé un bon ennemi, c'est facile de fédérer autour de cet ennemi.
Ouais, puis quelque part, ça revient un peu à notre questionnement de départ, qui est de dire finalement, fiez-vous au titre et au diplôme.
Oui, exactement. Exactement.
Et ça, on n'est pas forcément d'accord avec ça. C'est une possible garantie, mais enfin, un titre ne garantit pas des compétences. On ne peut pas dire qu'avoir un titre ou un diplôme, quel qu'il soit, garantisse la compétence du professionnel et son efficience ou son efficacité à accompagner ou à exercer ses fonctions. C'est une garantie écrite, c'est un niveau de connaissance avéré qui est censé se transformer en compétence. Mais ce n'est pas la garantie que la personne sera la meilleure sur le marché.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fait, Aymeric, ça fait bientôt 50 minutes qu'on parle. Je te propose qu'on clôture comme la dernière fois et puis que ça peut être un peu notre marque de fabrique par une question chacun qui sera une question personnelle.
Ok.
Je vais commencer. Hein.
Allez, je t'ai cuisiné la dernière fois, donc c'est à mon tour.
Moi, j'aimerais revenir sur ce milieu académique dans lequel tu évolues.
Ouais.
Parce que, comme je le perçois de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un sacré panier de crabes et que pour réussir à évoluer dans ce milieu académique, déjà, il faut faire du coude parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour obtenir un titre de prof. Mais surtout, ben, il y a un besoin de rentabilité au niveau des articles scientifiques qui vont être publiés. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu ne publies pas d'article, ben, tu ne vas pas évoluer dans ta carrière. Toi, personnellement, comment tu te sens avec ce besoin de rentabilité et à quel point est-ce que par moment, le cahier des charges qui est donné dans le milieu académique que tu dois suivre pour avoir cette évolution de carrière, t'a mis mal à l'aise?
Toi, tu veux que je me fasse des ennemis. Hein.
j'aimerais que tes collègues...
ouais. Non, je souscris. C'est-à-dire que moi, j'adore le monde universitaire. Cette logique-là, c'est quelque chose que j'aime faire, écrire, publier. C'est quelque chose qui me passionne véritablement. Maintenant, il y a des biais, effectivement. C'est-à-dire que cette course à la publication, cette course à la valorisation, c'est un problème. Et ce n'est pas un problème juste en soi. C'est que ça fait naître plein d'autres problèmes relatif au monde académique et finalement à ce qui va en ressortir. Parce que qui dit course à la publication, dit précipitation parfois, dit évaluation par les pairs, donc tu es évalué par d'autres enseignants-chercheurs ou d'autres chercheurs dans le domaine qui peuvent travailler sur la même chose, donc il peut y avoir un conflit d'intérêt indirect, c'est-à-dire que finalement c'est de eux que dépendent ta publication, donc en même temps cette activité de publication c'est une mine d'or. Absolu, c'en est flippant pour les éditeurs. Donc du coup, il y a de l'exploitation, c'est tout un milieu qui est finalement beaucoup moins sympa que ce qu'on pense quand on commence à regarder un petit peu la manière dont ça fonctionne. Et je sens pas personnellement une pression de rentabilité parce que finalement, les critères d'évaluation qu'on a, si on a un enseignant-chercheur ou un chercheur qui travaille un minimum, on arrive à les remplir sans trop de difficultés. En revanche, les critères de course à la publication, quand tu veux vraiment être parmi ceux qui publient le plus ou que tu t'attends une sorte de renommée, ça crée une sorte de malaise, je trouve, qui te détourne de la fonction première qui est normalement de partager des connaissances, de partager le savoir, de vulgariser et de diffuser ce savoir-là pour faire naître des échanges et contribuer de manière collective à améliorer la compréhension des choses et leur mise en œuvre par la suite. Et donc du coup, ça crée une sorte de course à la valorisation, de course à la reconnaissance, de course à une forme, alors c'est plus un titre ou un diplôme, parce qu'une fois qu'on a passé les derniers titres ou diplômes, il n'y en a plus, mais c'est finalement une sorte de titre symbolique qui va te faire émerger un peu plus que les autres ou te faire considérer un peu plus que les autres. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime vraiment pas, parce qu'on est dans un milieu justement où il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les résultats, pour l'absence de résultats, il y a de la place pour tout en réalité. Je trouve que ça, c'est un des avantages de la science, de pouvoir discuter d'une chose, mais aussi de son contraire. Donc, j'aime pas trop le...
Qu'est-ce que ça veut dire, j'aime pas ?
Ça crée de l'inconfort, je m'y retrouve pas. C'est pas quelque chose que je cautionne. Voilà, c'est quelque chose qui me dérange, véritablement, cette notion de course à la publication. Et il y a une sorte de mainmise, en quelque sorte, là-dessus, qu'on peut pas véritablement contourner, parce que les critères, ils sont arrêtés. Alors, il y a toujours des critères d'évaluation qui naissent et qui cherchent à nuancer ou à compléter ce qui existe. Mais au final, on est quand même sur l'impact de la publication, la reconnaissance de la revue, ce qu'on appelle l'impact facteur aujourd'hui, qui est plus tu publies dans une revue prestigieuse, plus ta revue, ton travail il a de valeur. alors que tu as des super articles dans des petites revues et des articles assez pourris dans des grosses revues. Donc voilà, le processus, il n'est pas totalement transparent, malheureusement. Et du coup, ça vient obscurcir un petit peu l'existant qui est diffusé derrière en termes de savoir. Ça, c'est quelque chose chez moi, ouais, qui crée un petit peu d'inconfort. Et puis même si tu vas un petit peu plus loin et pour être un peu plus provocateur, les processus d'expertise sont un manque de transparence également. Il y a eu 2-3 petites choses comme ça qui ont été tentées. Je me souviens d'un article qu'ils avaient finalement réussi à faire publier où ils avaient raconté n'importe quoi du début ou à la fin. Je crois que c'était sur les saumons et ils avaient monté un truc mais complètement débile. Chaque phrase était une provocation, ils avaient inventé des références, etc. C'était passé par un processus d'expertise et ça a été publié. Donc ça ne garantit pas non plus, en réalité c'est censé le garantir, hein, l'expertise par les pairs, donc par les gens du milieu sont censés expertiser la rigueur d'un protocole expérimental, sa reproductibilité, sa fiabilité, l'interprétation, si c'est pas trop spéculatif, hein, tout est évalué. Et normalement, quand tu passes cette expertise-là et que l'article est publié, c'est une garantie que les gens de ton milieu universitaire ont reconnu la force de ton article et la rigueur de ton article. Et puis, de temps en temps, tu as des trucs qui passent et tu te dis, mais là, c'est pas possible. Il y a un biais expérimental qui est monstrueux, qui remet complètement en cause la portée de l'article, et pourtant, ça a été publié. Donc, il faut être capable, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu n'es pas capable de faire toi-même cette lecture-là, bah tu te fies sur, non pas un titre, mais un label qui a été validé de par le fait que l'article est publié parce qu'il a été accepté par des experts. Et donc, tu lui donnes argent comptant et le message, je le prends et je l'applique. Mais en réalité, il y a peut-être plein d'erreurs dans cette étude-là. Il faut être capable de les déceler. Donc, ce n'est pas un milieu qui est aussi limpide que ce qu'on aimerait, et que l'image qu'on s'en fait peut-être parfois.
Après, il y a... Dans ce que tu me dis, il y a aussi les médias qui viennent jouer un rôle énorme, j'ai l'impression.
Ouais.
Parce que des chercheurs vont chercher aussi à être reconnus, mais pas que dans le milieu académique maintenant, mais aussi médiatiquement pour avoir une autorité un peu plus large. Je prends par exemple la psychologue Cuddy, qui est associé à Harvard maintenant, je crois, qui avait fait un TEDx en 2012, il me semble, sur l'influence des hormones en lien avec la posture du corps, et puis qu'apparemment ça faisait augmenter la testostérone si tu tenais en posture de héros. Et ça a été mais ultra médiatisé, ça a été un des TEDx les plus vus de tous les temps, avec les personnes qui se réappropriaient ce fait. Et en l'occurrence, tous les chercheurs qui ont essayé et les chercheuses qui ont essayé de reproduire cette étude n'ont pas réussi à le faire. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est vrai ce qu'elle a dit en 2012.
Mais tu sais, alors, il y a deux types de chercheurs. Il y a ceux qui ont envie d'une forme de notoriété sous la vulgarisation, la présence dans les médias. Puis il y a ceux qu'on veut pas du tout. Donc c'est un monde qui est très différent à l'intérieur de ce microcosme de la recherche. Et parmi ceux qui veulent de la notoriété, c'est sûr que les médias ont un impact qui est phénoménal. Moi, je vois, j'ai fait un tas de conférences, d'émissions télé ou d'interviews, etc.
T'as fait un TEDx aussi, d'ailleurs.
J'ai fait le TEDx. On me parle peut-être, c'est peut-être la chose dont on parle le plus aujourd'hui, le TEDx. Parce que la diffusion, elle est énorme, que le concept est très, très bien pensé. Donc, c'est très attractif et les gens se l'approprient très, très vite. Mais c'est vrai qu'on va me parler beaucoup plus de ce TEDx ou de certaines émissions télé ou de documentaires que de travaux scientifiques vraiment importants, que j'estime être majeurs dans mon domaine ou en tout cas dans ma carrière, et qui ne sont pas forcément véhiculés tout le temps par ces émissions-là ou ces notions-là. Donc la diffusion du savoir scientifique, elle n'est pas monstrueuse. La vulgarisation scientifique l'est beaucoup plus, et on en arrive malheureusement à une réappropriation et parfois même à un discours dans la vulgarisation qui est un petit peu préjudiciable ou qui respecte pas véritablement le message initial de l'étude scientifique. Ouais.
Mais c'est en lien aussi, et ça c'est intéressant parce que c'est autant, je pense, au final, autant dans le monde du coaching que dans le monde académique,
ouais, c'est vrai.
Ce besoin de trouver des solutions miracles. Et puis quand tu prends les médias, J'ai l'impression, j'imagine en tout cas, que les médias mettront plus facilement en avant des solutions miracles, oui, assez simples d'application, parce que c'est plus vendeur.
Certains viennent même te demander en disant bon, mais est-ce qu'on peut prendre un exemple vraiment précis et, mais non, en fait, non. Ça, c'est pas toujours aussi simple que ça. Quand on peut, on le fait. Mais on peut pas toujours avoir la méthode miracle vendeuse et compréhensible tout de suite par tout le monde.
Oui, mais si on prend un tout petit peu de recul, on peut jamais le faire.
Non, non, non. Puis peut-être même qu'on devrait jamais le vendre sous cette forme-là.
Bah
parce
oui,
que c'est toujours dans un contexte donné, sur un public donné, dans des conditions données, qu'il faut toujours nuancer. Enfin, non, on pourrait jamais. C'est, encore une fois, c'est jamais binaire.
Mmh.
Et donner une recette miracle, c'est binaire pour moi. À mon tour.
Vas-y,
Emma. Tu vas pas échapper à ta question quand même.
Alors,
tout à l'heure, en fait, tu as attaqué le podcast même en parlant de ta trajectoire, avec ce syndrome de l'imposteur, avec finalement. L'immense expérience que tu t'es forgée sur le terrain, puisque tu as accompagné des milliers de personnes au cours de ta carrière. Si aujourd'hui, tu devais, avec le recul du toi d'aujourd'hui,
avec de nouveau, ton, tu réponds du moi,
ouais,
tu t'es vas vachement dans cette question.
Ouais, j'aime bien cet entier-là. Qu'est-ce que tu changerais finalement? Est-ce que tu changerais quelque chose ou qu'est-ce que tu changerais si tu changeais quelque chose dans cette trajectoire-là, si tu avais l'opportunité de pouvoir la revivre mais l'agrémenter de certains éléments différents. Est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu es aussi le résultat de toutes ces expériences-là et que finalement, c'était bien, cette trajectoire? Ou est-ce que tu changerais quelque chose?
En fait, je crois pas que je... Non, je changerais pas grand-chose, je crois. Non, bah non. En fait, tu vois, si tu refais ton parcours de vie et puis que tu dis « Ah, mais si j'avais fait des études... » ça serait plus simple ou j'aurais plus de si, j'aurais plus... Mais tout ça, c'est que des fantasmes complètement hors réalité. Si j'avais fait des études, je serais peut-être complètement ailleurs. Si j'avais fait des études, j'aurais peut-être traversé exactement les mêmes difficultés que j'ai traversées dans ma vie. Peut-être les mêmes endroits où ça aurait été plus simple aussi. Donc non, je changerais pas grand-chose. Je suis assez content de la rigueur dans laquelle je me retrouve maintenant pour appréhender mon travail. Et je pense que pendant longtemps, je me suis peut-être... Comment dire ? Le fait que je n'ai pas fait d'études, je l'ai compensé en m'entourant de personnes qui font des études. Et j'avais l'impression d'avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès, qui me permettaient d'emmagasiner de la connaissance. Et je passais beaucoup de temps, et j'ai passé beaucoup de temps, et je le fais toujours d'ailleurs, à poser beaucoup de questions à des personnes qui sont très experts ou expertes dans des milieux précis. Ce qui me donne des références, qui me permettent d'aller plus loin dans des lectures ou dans la compréhension de certaines approches. Donc ça, je suis assez content. Je suis assez content et je pense que c'est en lien au fait que j'ai pas fait d'études, mais surtout... Pour être beaucoup plus transparent, quand j'avais 12 ans, je faisais des crises d'angoisse. Et puis à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi les psychologues, les pédopsies qui me suivaient, ont décidé de me faire un test de QI. Et ils m'ont annoncé, à moi et ma mère, que j'avais un QI inférieur à la moyenne. Et à partir des 12 ans, je me suis dit, bon, voilà, je suis moins intelligent que la moyenne. C'est le test l'a prouvé. Donc, je dois composer avec le fait que je suis moins intelligent que la moyenne. Qu'est-ce qui peut compenser le fait que je suis moins intelligent que la moyenne? Être très, très fort en relation. Si je suis très fort en relation, les gens se poseront pas la question si je suis intelligent ou pas, en gros. Puis après, l'autre chose que je me suis dit assez vite, c'est, OK, si on est moins intelligent que la moyenne, qu'est-ce qui nous met au même niveau? Je me suis dit, la mort, et la relation qu'on peut avoir avec la mort. Là, je pense que je peux être au même niveau que n'importe qui. Donc, j'allais très vite dans des questions extrêmement existentielles qui pouvaient créer des émotions, d'ailleurs, et puis toute forme d'incohérence sur la pensée, parce que dès que tu n'as aucune réponse, ben ben tu peux avoir des références jusqu'à un certain point par rapport à tes connaissances, mais il y aura aussi toutes les dimensions en lien avec l'affect qui vont surgir. Donc ça, c'est une chose qui m'a poussé à rentrer très vite en relation avec tout type de personnes confondues. Et puis, ça m'a donné des compétences qui me sont extrêmement utiles aujourd'hui. Donc, ça c'est chouette. Et d'ailleurs, je ne pense pas être moins intelligent que la moyenne aujourd'hui. Tu vois, je suis revenu là-dessus, mais ça a été long parce que pendant longtemps, c'est ce qui a donné ce syndrome de l'imposteur chez moi, en me disant, oh là là, je me mets au même niveau que certaines personnes. Mais si ces personnes connaissaient les coulisses de tout ça. Et puis, le fait d'avoir cette curiosité des gens m'ont amené à m'entourer de personnes qui m'ont quand même ouvert à des démarches de réflexion, des compréhensions de milieux auxquels je n'avais pas accès. Des fois même, l'ouverture complète de ce milieu, parce que j'avais fait un apprentissage. Je travaillais, donc j'apprenais un métier en entreprise, et mes potes qui étaient au gymnase, je leur demandais, mais mes jours de congé, est-ce que je peux me faufiler dans votre classe au gymnase pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans ces espaces qui étaient mystérieux pour moi. Donc non, je crois que je ne changerai rien, parce que je me sens dans un endroit plutôt juste avec lequel je me sens confortable aujourd'hui.
C'est bien que tu dises tout ça, parce que finalement, ça vient un peu confirmer un des propos qu'on avait au départ, qui est cette réciprocité vraiment entre la connaissance et la compétence. Et on a une vision classique de la connaissance vers la compétence, mais on condamne un petit peu trop vite encore aujourd'hui le chemin inverse. Et là, tu démontres parfaitement, je trouve, tu incarnes même d'une certaine manière, le fait que la compétence et les connaissances se nourrissent mutuellement, mais qu'il n'y a pas d'ordre. En réalité, et que les compétences que tu développes peuvent tout à fait être nourries au fur et à mesure, a posteriori, comme elles peuvent l'être au préalable, c'est un peu plus le cursus classique qu'on a dans la formation aujourd'hui, mais il n'y a pas de règle. Une nouvelle fois, ce n'est pas binaire, et ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'elles se nourrissent mutuellement et qu'elles composent vraiment pour jouer la mélodie de la perfection. Joli slogan, tiens, je la ressortirai celle-là. Mais vraiment, voilà, cette complémentarité entre les deux, je pense qu'elle est vraiment essentielle. Et je trouve que, voilà, je suis content que tu aies ce recul-là et que finalement, tu nourrisses pas aujourd'hui le regret de pas avoir finalement eu un chemin plus classique de l'un vers l'autre, alors qu'en réalité, l'autre trajectoire fonctionne tout aussi bien.
Oui, et puis quand tu discutes avec des gens qui ont fait des études, en l'occurrence, qu'on discute ensemble, mais aussi avec le reste de mon entourage, tout le monde traverse des difficultés. Tout le monde a des facilités à certains endroits. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de prendre un maximum de recul et puis de créer des espaces de dialogue intéressants en lien avec ces difficultés, en essayant de se détacher au plus des stéréotypes de la réussite en lien avec nos milieux.
Ouais, complètement d'accord.
Bon, Aymeric, ça fait 1h08, exactement comme
le précédent.
Ouais, parfait. Exactement. Donc on verra si les prochains seront aussi.
Dire à toutes les personnes qui ont eu l'envie et la gentillesse de nous écouter, de nous donner leur avis aussi dans les commentaires. Comment ils voient cette articulation entre la compétence, la connaissance? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça résonne chez eux, ce qu'on a partagé? Et puis également, si ça fait naître des questionnements complémentaires ou des perspectives d'ouverture, qu'ils n'hésitent pas à nous les partager pour qu'on puisse se les approprier et pourquoi pas échanger par la suite sur ces aspects-là.
Et puis aussi, si, comme pour ce podcast, il y a des envies particulières qu'on traite un thème, très volontiers de nous le suggérer. Vous pouvez nous écrire par email ou laisser des commentaires sur les plateformes sur lesquelles on est. Merci, Aymeric.
Merci à toi. Merci à tous.
À plus. Alors là, on fait semblant de se quitter. Mais je vais te faire un call WhatsApp juste derrière.
Ça marche.
À tout. Ciao.